Nicolas Tenzer, bonjour.
Bonjour.
Merci d'accepter de répondre à nos questions sur Radio Judaïka. Vous êtes politologue et fondateur du Centre d'études et de réflexion pour l'action politique. Et aujourd'hui, si vous le voulez bien, nous allons parler de la récente annonce du président russe Vladimir Poutine, annonce selon laquelle la Russie va déployer à partir du mois prochain des armes nucléaires tactiques au Bélarus, un pays allié de la Russie. Une telle annonce, est-ce que c'est un nouveau tournant dans l'invasion russe en Ukraine ?
Non, ce n'est pas un tournant, c'est un élément de chantage supplémentaire. Vous savez, Vladimir Poutine agite la menace nucléaire de manière régulière et ça constitue évidemment un nouvel élément. Personne n'a été véritablement surpris, à ceci près quand même que vous aviez eu en principe une déclaration qui avait été faite entre le président chinois Xi Jinping et Vladimir Poutine, qui disait assez clairement qu'il y avait un engagement russe, évidemment, de ne pas utiliser des armes nucléaires. Là, on voit effectivement, non pas qu'il les utilise, certes, mais que vous avez cette nouvelle menace. C'est-à-dire qu'on a un peu l'impression que même vis-à-vis de la Chine, Poutine n'en fait qu'à sa tête.
Oui, voilà, effectivement, j'allais y venir. La semaine dernière, le président chinois Xi Jinping était à Moscou pour y rencontrer son homologue russe Vladimir Poutine et les deux hommes ont affirmé qu'une guerre nucléaire ne devait pas avoir lieu. Alors, est-ce que avec cette annonce d'armes nucléaires, justement, au Bélarus, Poutine pourrait-il perdre le soutien de la Chine ?
Écoutez, je pense que il y a un soutien, disons, mesuré de la Chine. C'est-à-dire que d'un côté, Xi Jinping, qui est aussi un dictateur, n'a pas tellement envie d'avoir en Russie un régime démocratique. Donc, il préfère avoir une forme de continuité avec un pouvoir fort, un pouvoir oppressif, parce que dans le cadre des alliances entre les dictatures contre les démocraties, la Russie peut être considérée comme une forme d'allié, certes pas totale, de la Chine. Je crois que ça s'arrête là. Que deuxièmement, vous avez une ambition assez claire, depuis assez longtemps d'ailleurs, de la Chine, de mettre la main en quelque sorte sur la Russie, non pas de l'anéantir certes, mais d'en faire une sorte de vassal sur le plan économique. Et là aussi, Xi Jinping préfère avoir un régime prêt à vendre en quelque sorte la Russie à la Chine, plutôt qu'un régime démocratique, allié de l'Occident, qui pourrait être un allié beaucoup plus encombrant, beaucoup plus remuant et en tout cas beaucoup moins docile. Donc ça, c'est aussi une réalité. Alors, de là à dire que Xi Jinping aide considérablement la Russie, non. Il semblerait quand même que par la Chine transite un certain nombre de composants qui peuvent servir à l'industrie militaire russe, non pas évidemment des canons ou des obus directement, mais quand même des composants qui peuvent être utiles à la Russie pour faire face à la pénurie qui est liée aux sanctions occidentales. Mais la Chine essaye de rester dans une sorte de mesure, en quelque sorte, dans son soutien à Moscou.
Alors, selon Vladimir Poutine, cette décision de déployer des armes nucléaires tactiques au Bélarus, elle a été motivée par la volonté de Londres d'envoyer des munitions d'uranium appauvri à l'Ukraine. Alors, est-ce que, justement, les armes que Poutine va déployer au Bélarus, ça va être le même type d'armes que les munitions d'uranium appauvri pour l'Ukraine ?
Non, pas du tout. Sur le plan technique, cela n'a rien à voir. Les armes à uranium appauvri que la Grande-Bretagne pourrait fournir à l'Ukraine, ce sont des armes conventionnelles, ce ne sont pas des armes nucléaires, ce sont des armes qui ont une capacité de frappe évidemment et de perçage en quelque sorte des blindages, notamment des véhicules blindés, enfin donc des chars, etc., qui est nettement supérieure à des armes, disons, plus classiques en quelque sorte, mais ce ne sont pas des armes nucléaires, alors que les armes tactiques que la Russie pourrait donc déployer au Bélarus. Encore une fois, faudra-t-il que Poutine le fasse véritablement ? Et ça, on n'en sait encore rien. Les Américains et les alliés en général surveillent cela d'assez près. Ce sont quand même des armes nucléaires, même des armes tactiques, donc avec une portée d'environ 300 à 500 km. Ce ne sont pas des armes stratégiques comme les missiles intercontinentaux, ce sont des armes qui ont une capacité d'explosion de plusieurs kilotonnes et non pas de mégatonnes, mais ce sont des armes nucléaires quand même nettement supérieures à celle qui avait frappé Hiroshima et Nagasaki. Et on a vu évidemment les désastres que cela avait engendré. Ce sont des villes, des armes qui sont capables de raser toute une ville, sans parler évidemment des conséquences induites en termes de radiation radioactive, qui d'ailleurs ne se limiterait pas à l'Ukraine, on le sait, mais qui pourrait toucher tous les pays voisins, y compris d'ailleurs la Russie. Donc on est sur quelque chose de complètement différent.
Alors évidemment, l'Occident a réagi à cette annonce russe de déployer ses armes nucléaires au Bélarus. L'OTAN dénonce une rhétorique dangereuse et irresponsable de la part de la Russie. Et Poutine, de son côté, se défend en quelque sorte en disant que ce n'est pas quelque chose d'inhabituel que les États-Unis déploient depuis longtemps leurs armes nucléaires tactiques sur le territoire de leurs alliés. Et il explique également qu'en faisant cela, la Russie ne viole pas ses engagements internationaux en matière de non-prolifération des armes. Alors en curieux, une fois, Nicolas Tenzer, on imagine que ce n'est pas évident de démêler le vrai du faux dans cette déclaration slash coup de com' de Vladimir Poutine.
Je pense qu'il y a d'abord surtout du faux. Le faux, c'est tout d'abord que les alliés, notamment les Américains, n'ont cessé depuis 20 ans, voire 30 ans, de supprimer un certain nombre de leurs implantations de missiles nucléaires dans les pays européens, que ce soit l'Allemagne, que ce soit la Pologne notamment. Vous avez une diminution constante. Ensuite, ces armes sont évidemment à un usage purement défensif en cas d'attaque et cela se fait évidemment avec l'accord de pays souverains. Là, ce qui se passe au Bélarus est complètement différent. On sait que Poutine n'a absolument pas renoncé à son idée de fusion entre le Bélarus et la Russie. Ensuite, concrètement, le déploiement de ces armes viole plusieurs traités. Tout d'abord, la déclaration d'indépendance du Bélarus, c'est-à-dire que concrètement, le dictateur, qui n'est pas véritablement élu, en tout cas qui a été élu de manière totalement frauduleuse, comme on le sait en 2020, viole en quelque sorte la constitution même de son pays et des déclarations solennelles. Ensuite, cela viole également le mémorandum de Budapest de 1994, qu'on cite souvent à propos de l'Ukraine, puisque la Russie l'a violé en 2014 par l'annexion de la Crimée et l'invasion du Donbass. Là, il viole également cet accord qui prévoyait la dénucléarisation du territoire du Bélarus. En fait, il s'agit surtout d'une mainmise de Poutine de plus en plus forte, de plus en plus étroite sur le Bélarus. Il aide évidemment son dictateur à se tenir au pouvoir. Des armes ont été déployées sur ce territoire. On voudrait peut-être même, en tout cas du côté de Poutine, que le Bélarus aide aussi directement la Russie à envahir encore plus l'Ukraine, à lancer des attaques contre l'Ukraine. En tout cas, le Bélarus sert de base arrière pour des frappes contre le territoire ukrainien de la part de missiles russes. Donc, c'est surtout une mainmise sur le Bélarus. Et donc, derrière, vous avez évidemment un certain nombre de traités qui sont violés, mais le parallèle entre le déploiement des missiles de l'OTAN et ceux qui pourraient être déployés au Bélarus n'a strictement aucun sens, ni sur le plan juridique, ni en termes de respect de la souveraineté des pays.
Et l'Union européenne a menacé quant à elle le Bélarus de sanctions si ce déploiement d'armes russes sur son territoire était réalisé. Alors le Bélarus n'est pas directement partie prenante dans ce conflit, mais pourrait-il le devenir beaucoup plus prochainement et dans ce contexte ?
Alors, je pense qu'il y a évidemment cette demande à laquelle je faisais allusion de la part de Poutine d'impliquer directement le Bélarus dans la guerre. Dans ce cas-là, le Bélarus deviendrait partie à l'agression que la Russie a lancée contre l'Ukraine en 2022, mais en fait déjà depuis 2014. Donc là, il y aurait véritablement une co-belligérance. Co-belligérance, je le rappelle, qui n'existe pas du tout dans le soutien des alliés à l'Ukraine, puisqu'il s'agit d'un pays agressé. Là, ce serait tout à fait différent, puisque le Bélarus deviendrait aussi, comme la Russie, un pays agresseur. Tout ceci est évidemment extrêmement préoccupant, et c'est d'ailleurs dans cette perspective que l'Union européenne, vous l'avez dit, envisage de lancer des nouvelles sanctions. Il y en a déjà beaucoup contre ce régime. On voit en quelque sorte que Loukachenko est de plus en plus dans les mains de Poutine. Maintenant, est-ce que l'armée du Bélarus pourrait contribuer à des opérations militaires contre l'Ukraine? On en est loin, tout simplement parce que la l'armée du Bélarus est très peu entraînée, ses capacités militaires sont très faibles, et puis tout simplement que les soldats du Bélarus, et même des officiers supérieurs et généraux, n'ont aucune envie de mourir pour cette cause que la Russie est la seule à promouvoir. En fait, le Bélarus, même des soutiens au régime, n'ont pas du tout envie de participer à cette agression. Elles ne voient pas du tout le sens qu'elles pourraient avoir. Et pour l'instant, en tout cas, on a l'impression qu'ils ont résisté aux pressions de Moscou.
Merci beaucoup Nicolas Tenzer d'avoir accepté de répondre à nos questions sur Radio Judaïka. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes politologue et fondateur du Centre d'études et de réflexion pour l'action politique. Merci beaucoup.
Merci à vous.